Bonsoir à tous. Pour ceux qui n'auraient pas lu la petite plaquette éditée par la BPI Centre Georges Pompidou, ce soir, nous recevons Jean-Christophe Menu, qui est auteur de bande dessinée et directeur et cofondateur de la maison d'édition L'Association. La première question que j'ai envie de vous poser, Jean-Christophe, c'est comment est née tout simplement l'association ?
L'association, elle est simplement née en 90 de la volonté de 6 auteurs de bande dessinée qui étaient un peu là du paysage et du contexte de cette époque-là et qui ont décidé de mettre leur énergie en commun pour fonder un espace nouveau qui n'existait pas, c'est-à-dire un espace où on puisse faire vraiment une bande dessinée avec une politique d'auteur conséquente, quelque chose qui existait chez Futuropolis avant, qui existait parfois dans des magazines, mais qui n'existait plus vraiment à ce moment-là, où si on voulait publier la bande dessinée, il fallait vraiment faire un livre de 44 pages couleur avec un personnage cow-boy ou bien heroic fantasy ou bien extraterrestre ou bien un truc comme ça. Donc, comme nous, on n'avait pas envie de faire ça spécialement et qu'on avait envie d'utiliser la bande dessinée pour d'autres choses, on a décidé de créer l'association. En gros, c'est ça. Il y a plein d'autres raisons, hein, mais bon.
Quelles sont-elles ?
Oh, je ne sais plus.
Vous ne savez plus. Bon. Mais et pratiquement, comment ça s'est fait ? Est-ce que ça...
Pratiquement, ça s'est fait... petit à petit, parce que ça n'a pas été tout de suite évident. On avait pas mal d'expériences avant de fanzines, d'expériences en commun, genre le Globof d'Angoulême, des quotidiens, des choses comme ça, des choses un peu de polémiques par rapport au milieu de la bande dessinée, mais peu de choses à vraiment apporter au niveau création. Donc c'était assez long, en fait. On a créé l'association en 90, les premiers albums sont sortis en 91, Lapin est sorti en 92. Il y avait des années où il se passait qu'un seul ou deux livres de publier à ce moment-là, et ça s'est un peu accéléré plus tard, vers 94 par là. En fait, on avait des principes assez rigoureux dès le début. On savait vraiment ce qu'on ne voulait pas faire, on savait aussi ce vers quoi on voulait aller. C'est-à-dire que on voulait faire une bande dessinée d'auteur, on voulait que ce soit une maison d'édition qui présente des objets, des livres qui ne ressemblent absolument pas à la BD qu'on trouve partout, c'est-à-dire l'album cartonné couleur. On voulait que ça ressemble à du livre et non pas à l'album de BD qui pour nous était synonyme de ce qu'on refusait. Donc tout ça a mis assez longtemps à s'imposer. Et puis tout d'un coup, ça s'est imposé. Ça fait partie du paysage et on a pu être les seuls à le faire. Et maintenant, les choses ont beaucoup changé, et tant mieux.
Non, mais quand je vous dis pratiquement, je vous pose cette question parce que je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont... Oui, ça va nous tomber sur le Tipeee va nous tomber sur la tête. Il y a beaucoup de gens qui sont étudiants en édition... Et j'aimerais que vous leur expliquiez comment il est possible de créer, avec très peu de moyens et beaucoup d'énergie, une maison d'édition de bande dessinée. Est-ce que c'est...
C'est possible.
C'est, oui, vous en êtes la preuve vivante.
Ouais. Comment dire ? L'association, c'est une drôle d'histoire. Moi, je ne sais pas non plus trop ce qui se passe avec cette bestiole-là. Elle nous dépasse un peu. Bon, on a été 6 à créer l'association, c'est pour ça que notre symbole, c'est une hydre à 6 têtes. Mais c'est une bête, c'est une chose. Et à la limite, il faudrait demander à la chose et pas à moi, et je ne sais pas où elle est, la chose. Mais le fait est que nos principes, notre envie au niveau de cette maison d'édition a rencontré... des envies aussi au niveau d'un certain électorat qui était existant, en fait, contrairement à ce qu'on aurait pu croire et ce que les gens auraient pu dire. Et en fait, ça s'est fait un peu tout seul. Donc il y a une sorte de magie que je ne m'explique pas, et donc je ne peux absolument pas donner de recette à quiconque à ce sujet, quoi. Il s'est trouvé qu'on a fait des livres, qu'on a créé cette maison d'édition, et que peut-être parce qu'elle ressemblait à rien, ou bien parce qu'elle était attendue par quelque chose, elle a eu ce succès-là, et elle est ce qu'elle est aujourd'hui maintenant, mais je pense qu'il n'y a absolument aucune recette. C'est un peu comme si vous me demandiez comment on fait pour, je sais pas, réussir une mayonnaise, je sais pas non plus.
Oui, il y a peut-être un petit... Ouais. Et les six auteurs fondateurs sont...
Eh bien, c'était Kilofer, David B., Lewis Trondheim, Stanislas, Matt Cantur. J'en ai oublié un ou pas ? Moi ?
Oui, peut-être.
Hein. Voilà. Mais cette équipe de six a été rejointe depuis par beaucoup d'autres. Et leur avis aussi est très important maintenant, même si dans notre espèce de hiérarchie interne, on a décidé que le pouvoir décisionnaire resterait aux fondateurs pour que ce ne soit pas une sorte de bazar continuel. Mais c'est évident que l'opinion de chacun est très importante.
Alors justement, vous parliez de hiérarchie interne. Comment ça fonctionne l'association ? Est-ce que bon, il y a six membres fondateurs, il y a bon, maintenant beaucoup d'auteurs qui vous ont rejoint.
Ben, oui. C'est-à-dire que au début, c'était simplement une décision de six auteurs. Donc, il y avait déjà des gens autour de nous, hein, il n'y avait pas que ces six-là. De faire une maison d'édition pour faire des livres qui n'auraient pas pu exister ailleurs. Bon, ça, c'était le principe de base. Maintenant, les six auteurs sont un peu éparpillés, à la fois géographiquement et par rapport aussi à leur implication, leurs envies, leur carrière. Et l'association fonctionne avec cinq salariés qui font tourner ce qui est devenu une petite entreprise. Et il y a une trentaine d'auteurs réguliers. Mmh. Donc il y a eu énormément d'étapes pour arriver à ça. Il y a eu le premier local, un deuxième local plus grand, un premier salarié, puis, etc., etc. C'est quelque chose qui n'a pas cessé de grandir et qui nous dépasse un peu. C'est pour ça que je parle de cette espèce de bestiole, quoi, qui nous dépasse un petit peu tous.
Alors, vous êtes toujours plein de projets. Enfin, je veux dire, dans l'association, ce qui frappe dès le départ, c'est une véritable énergie créatrice. Enfin, moi, j'ai reçu deux, trois choses qui d'abord m'ont amusé, ensuite que j'ai trouvé très bien faites, enfin fabriquées avec énormément de sérieux. Et puis, c'est toujours intelligent. D'où ça vient ? Comment c'est fait ? Quels sont vos projets ? Est-ce que
Merci.
De rien.
Comment dire ? Il y a vraiment beaucoup d'aspects dans l'association. Il y a une part l'édition de livres, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est une vraie association, le 1901, qui a de vrais adhérents et qui reçoivent des choses hors commerce, des petites choses, quoi. Et là, c'est vrai que par rapport à des livres qui sont d'une fabrication maintenant assez rodée, on prend beaucoup de plaisir à imaginer tous les ans un cadeau différent, une carte de vœux différente, à faire parfois un canular, parfois quelque chose qui soit vraiment imposant. Aussi bien on peut faire pour les adhérents une sorte d'album d'images chocolat. On appelle ça les images chocolat parce que ça pastiche un peu les images qu'on trouvait dans les chocolats avant-guerre. Et donc pendant 5 ans, les adhérents ont reçu des petites images et puis ils ne croyaient absolument pas que c'était sérieux. Donc ils les donnaient, les dilapidaient et puis finalement ils ont reçu le livre ou les collaient. Donc 5 ans après, en fait, c'était tout à fait sérieux. Il y avait des rubriques qui existaient, des carnets, machin. Donc ça fait partie de notre état d'esprit. Une année aussi, on a envoyé un 45 tours. Donc les six fondateurs ont posé de façon très rock'n'roll sur une pochette de 45 tours. Donc tout le monde a reçu ce disque, petit format, vinyle. Et en fait, c'était évidemment un gros canular. J'avais trouvé chez le disquaire d'en face de chez moi une pile de 445 tours absolument invendables, des trucs que même pour 50 centimes, c'était pas possible. Et c'était pour la plupart du disco français 76, par là. Donc on a collé des vignettes sérigraphiées en vinyle sur le disque lui-même pour cacher les informations du disque. Et donc, de cette façon-là, tous les disques qui étaient pourtant différents avaient la même allure et on les a envoyés aux adhérents. Et on a eu des réactions assez intéressantes, par exemple. C'est super, même ce que vous faites en musique, c'est super. Ou bien alors... non, franchement, je suis désolé de te le dire, mais c'est un peu variété, ça va pas, quoi. Bon, évidemment, on s'amuse beaucoup avec ce genre de choses. Et on a fait l'affiche du concert, là, c'est l'année d'après. Bon, il y a aussi des histoires de nappes de restaurant, des choses comme ça. Donc, ça, c'est un peu la vie interne de l'association, c'est en marge des livres.
Oui, il y a ça, et puis... Vous avez des projets, enfin même si jamais vous prenez au sérieux, vous avez un projet là dont vous m'avez parlé tout à l'heure, c'est pour l'an 2000, le projet oui. 2000 pages.
Oui, bah ça c'est aussi une sorte de petite chose à laquelle on s'amuse en ce moment, c'est de faire un livre de 2000 pages.
Mais encore, parce que pour un livre de 2000 pages, ça peut être très chiant. C'est-à-dire l'annuaire fait...
Ah oui, non, c'est pas l'annuaire, non, c'est... Ça part d'une idée qui peut être un gadget, une idée de fin de repas, c'est hey, on va faire un livre de 2000 pages pour l'an 2000. Et puis bon, bah, on rigole un peu, et puis finalement il y a d'autres idées qui se greffent à ça, et ça devient un projet intéressant. C'est-à-dire que la principale idée, c'est les auteurs vont faire du muet, comme ça, c'est lisible.
Du muet.
Des planches muettes, des planches sans texte. Donc ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que ça devient un objet international, que on peut demander aussi bien à des Japonais qu'à des Scandinaves, qu'à des gens des pays de l'Est, qu'à des États-Uniens, qu'à des gens comme ça. Et là, ça devient intéressant parce que on peut réunir dans un livre de 2000 pages, puisqu'on demande entre 3 et 15 planches à chaque auteur. On peut réunir entre 300 et 500 auteurs et ces auteurs-là ne se connaissent pas sur la surface de la planète. Donc en fait, on va aboutir à une sorte d'objet impossible de 2000 planches de bande dessinée, une espèce de confrontation d'auteurs qui ne se connaissent absolument pas sur la surface de la planète, qui vont se découvrir. Donc ça, c'est un projet qui devient intéressant. Et ce qui n'était qu'une espèce de gag devient quelque chose qui va probablement se réaliser à 95% de chance cette année, qui va sortir en novembre et qui va recevoir a priori l'appui du ministère de la Culture et de diverses instances officielles qui ont été enthousiasmées par le projet. Donc ça c'est ce qui nous occupe le plus en ce moment, en fait, cette chose de 2000 pages.
Et ça fait 3 ans que vous y pensez, l'idée d'être...
Ça fait à peu près 3 ans que l'idée a été lancée, mais qu'on n'y croyait pas. Ça fait peut-être 1 an qu'on y croit un peu plus, qu'on a commencé à en parler et qu'on a des échos très positifs, parce que c'est vrai que c'est un projet tellement fou qu'il attire beaucoup l'attention. Et puis ça fait seulement un mois et demi là que la machine est lancée, c'est tout. C'est-à-dire qu'on a envoyé un mailing à environ 1000 auteurs sur la planète, et puis qu'on s'est préoccupé plus sérieusement du financement et tout ça.
Et ils vous répondent facilement, parce que les contacter, ça doit être vraiment une tâche ardue, quoi.
Ça a été très long de mettre sur pied une liste d'auteurs... international comme ça, il y a eu beaucoup d'intermédiaires, il y a des adresses qui sont mauvaises, il faut rechercher les meilleures adresses maintenant, il y a des gens dont on cherche encore la trace, qui n'ont pas fait de bande dessinée depuis 20 ans, mais dont on estime que la présence est indispensable dans l'objet. Donc il y a à la fois un travail de recherche et un travail d'investigation qui est assez important, ouais.
Et vous m'avez dit que vous travaillez avec Robial.
Oui, on a demandé à Étienne Robial, qui devrait être là ce soir, je pense, de faire l'emballage de cet objet. Et on est très content qu'il accepte.
Bon, s'il est là, je sais pas. Peut-être. Il est là. Bon. Et vous allez accepter, vous êtes engagé ? Bon. Bien, parce que c'est un peu...
Et ben, cet objet, s'il existe, sera, je pense, une espèce de redéfinition vraiment du paysage de ce qui se fait en bande dessinée de manière internationale, parce que moi qui suis vraiment dans un milieu très très spécialisé, je reçois des choses, des fanzines, des publications de vraiment d'énormément de pays, et il y a vraiment une énergie dans tous ces pays, dans tous ces courants de choses qui est très intéressante, et ça c'est quelque chose dont on n'a vraiment pas idée quand on regarde le paysage de la bande dessinée. Donc j'espère que cet objet va venir témoigner de la richesse et de l'internationalité de la bande ce dessinée. Moyen d'expression merveilleux.
Et comment allez-vous faire pour le diffuser dans le monde?
Ben, comme cet objet sera muet, ça facilite vraiment l'exportation de la chose. Ça veut dire qu'on ne fait pas des accords avec d'autres éditeurs pour faire des traductions, et qu'il n'y a pas de problème de lettrage, des choses qui retardent d'autant plus et qui surcoûtent, parce que c'est déjà un objet qui va coûter une fortune à faire faire. Donc le fait que l'objet lui-même soit exportable directement est une bonne chose. Donc en fait, on est en train d'essayer de faire des pré-accords, avec des éditeurs ou des diffuseurs dans tous les pays clés que ça intéresse, aussi bien États-Unis que Scandinavie, Italie, Espagne, Japon, j'espère, etc. Et donc on fait des accords comme ça. Donc on espère faire un tirage de 10 000 environ, mais peut-être qu'on va être dépassé par la chose. On avance vraiment à l'aveuglette, on ne sait pas trop.
Mais ça demande une gestion énorme, enfin, je veux dire...
Oui, c'est vrai que là, tous les jours, il se passe des choses. On reçoit des planches, on reçoit des courriers, des mails de gens qui disent « Oui, je vais faire ci, je vais faire ça. » Des gens qui demandent « Est-ce que je peux participer ?» Alors qu'effectivement, comme c'est ouvert, oui. Mais bon, il y a déjà énormément de mouvements autour de ça.
Mais, ouais. Bon, sinon, l'association a déjà une pratique, a une habitude de la traduction de bande dessinée.
Oui, ça, c'est une sorte de comment dire, c'est le projet le plus international qu'on ait fait, et je pense qu'on ne peut pas faire plus international que ça, puisque c'est ouvert à quiconque, à n'importe quel auteur de bande dessinée, de n'importe quel pays. Évidemment, il y aura une sélection à la fin. On espère recevoir 3500 pages pour garder les 2000 meilleurs. C'est le but, c'est pas d'avoir une accumulation de 2000 pages moyennes ou bien foireuses. Le but, c'est d'avoir 2000 bonnes pages et d'avoir vraiment une sorte des talons de ce qui se passe de bien partout en ce moment. Mais c'est vrai que c'est une idée qui participe de notre politique aussi de traduire de plus en plus d'auteurs étrangers, de traduire de plus en plus de choses qui viennent de pays différents. Cette année, on en a fait beaucoup. Cette année, on devrait en faire encore plus. On a traduit l'américain Jim Woodring. Bon, la québécoise Julie Doucet, ça fait longtemps qu'on travaille avec elle. Le suédois Max Anderson. L'autre suédois Gunnar Lundqvist, peut-être le néo-zélandais Dylan O'Rourke, le canadien Chester Brown, l'américaine Debbie Drexler. On a déjà traduit la suissesse Anna Sommer, le suisse Thomas Ott, et je dois en oublier beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe vraiment une sorte de petite internationale de la création en bande dessinée qui est une chose nouvelle, qui n'existait pas auparavant, et qui en fait... Et quelque chose de très très motivant depuis 4-5 ans dans le paysage de la bande dessinée, c'est que un peu partout on voit émerger des petits éditeurs, soit des structures qui viennent des auteurs eux-mêmes, soit de passionnés, qui en fait ont les mêmes valeurs, les mêmes références, aussi bien aux États-Unis qu'en Finlande, qu'en Allemagne, qu'en Suisse alémanique, qu'en Italie, qu'en Espagne. Et il y a des revues, des livres qui se font. Qui ont vraiment les mêmes références, qui se référencient pas du tout à la bande dessinée dominante de leur pays, qui d'ailleurs n'est pas la même, et c'est là que c'est intéressant, c'est que par exemple aux États-Unis le mainstream, donc la production dominante, c'est le super-héros, chez nous c'est plutôt la production franco-belge, les séries, les héros, l'heroic fantasy et tout ça. Et cette petite internationale-là n'a rien à voir avec leur production dominante. En fait, c'est... une production quelque part souterraine, mais qui en fait est une production directement en rapport et en respect avec l'histoire de la bande dessinée, tout simplement. Et c'est pas un hasard si la plupart de ces petites maisons d'édition, où qu'elles se trouvent, ont les mêmes références, que ce soit Tardi, Munoz ou Crumb. C'est ni Tintin, ni Marvel, c'est des auteurs, c'est une politique d'auteur internationale. Et ça se dessine depuis à peu près 4-5 ans, et c'est nouveau, et ça, c'est très très motivant.
Et pourquoi, d'après vous, excusez-moi, enfin pourquoi ces gens ont besoin de se retrouver de...
Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait l'isolement dans chaque pays, que le fait de voyager, d'être invité dans des festivals étrangers, la curiosité d'aller chercher des produits importés, des fanzines de tout pays, de recevoir des choses par la poste, tout ça fait qu'on rentre en contact de plus en plus avec des créateurs de différents pays, et on se rend compte qu'un tel de Suède a les mêmes références qu'un tel d'Espagne, et puis finalement c'est des Allemands qui publient les deux, et des choses comme ça.
Et ces maisons d'édition étrangères de bandes dessinées, est-ce qu'elles, en marge, est-ce qu'elles vous ressemblent vraiment, ou il y a vraiment une autre création, enfin c'est encore complètement différent, c'est vraiment autre chose?
Je pense que chaque petite maison d'édition a sa spécificité. Il y a d'autres groupes. C'est vrai que nous, on était un groupe d'auteurs à la base. Bon, après nous, il y a eu d'autres groupes d'auteurs qui se sont créés. Il y a eu Frigo à Bruxelles, il y a eu Amok à Paris, il y a eu Ego Comics à Angoulême. Sinon, il y a d'autres structures qui viennent de gens qui ne sont pas forcément des auteurs, qui ne sont pas forcément des groupes, comme Cornelius, comme Vertige Graphique. On retrouve le même genre de phénomène dans les autres pays, soit des groupes, soit
des gens
passionnés.
Est-ce que, par exemple, les préoccupations de ces auteurs, je ne sais pas, allemands, anglais, scandinaves, sont les mêmes que les vôtres, enfin, je veux dire, au niveau du scénario, du graphisme?
Ben, on ne se pose pas tellement la question du scénario, du graphisme. En fait, je pense que ce qui nous intéresse et ce qui intéresse de manière équivalente ces auteurs, ces éditeurs à l'étranger, c'est simplement l'expression d'auteur, quoi. C'est-à-dire un tel, où qu'il se trouve, en bande dessinée, il fait quelque chose qui ne ressemble qu'à lui. Ça n'a pas été fait avant, c'est nouveau, c'est intéressant, c'est original, c'est lui, qu'il soit suédois, américain ou espagnol. C'est secondaire.
C'est une œuvre qui lui est propre.
Et donc c'est pour ça que cette chose-là est vraiment internationale, c'est que finalement la nationalité de la personne n'est pas tellement importante. Quoi.
Ouais.
Bon, évidemment, il y a des dominantes. C'est sûr que on peut trouver qu'un tel, enfin je sais pas, plus allemand, un tel plus espagnol. Bon, on parle du monde occidental. Là. C'est vrai que si on passe dans le Japon, c'est encore des sensibilités différentes. Mais peut-être que c'est en train de s'internationaliser plus là aussi, je ne sais pas. En tout cas, ces dernières années, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des frontières qui se sont ouvertes entre ces pays-là. Quoi. Par exemple, moi, je n'aurais pas imaginé qu'il y ait un grand mouvement underground, bande dessinée très intéressant en Finlande, des gens qui sortent de Suède, des choses comme ça. Et puis même dans les pays de l'Est, en ce moment, ça bouge beaucoup. Il y a des gens en Slovénie qui font une sorte de travail de recensement. Ils demandent des participations à peu près à tout le monde, aussi bien à Julie Doucet qu'à l'association, qu'à des gens comme ça. Quoi. Et en fait, ils traduisent ça, ils publient ça dans les pays de l'Est. Et c'est en train aussi de faire germer quelque chose d'autre.
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que des maisons d'édition de bandes dessinées plus classiques, je pense à Delcourt, au Seuil, ont repris de façon très flagrante, enfin, je veux dire, votre maquette, le papier, le concept, quoi, de des albums que vous publiez. Comment réagissez-vous, enfin, comment l'expliquez-vous, en tout cas?
Comment dire, c'est vrai que un de nos premiers principes, quand on a commencé, c'était ce qu'on va faire ne doit pas ressembler à des albums de BD. Point. Ça, c'était important. C'est, on fait du livre, on ne fait pas de la BD. On va essayer de déterminer une ligne graphique rigoureuse, stricte, qui fait qu'on va reconnaître un album de l'association par rapport à autre chose, et qu'on va se trouver contre ou... en controverse, je ne sais pas, avec un album de BD classique. bon, c'est vrai qu'on était aussi un peu en filiation directe avec Futuropolis, qui avait déjà eu cette démarche-là. Mais ce qu'on a pu observer, c'est vrai que une collection du Seuil qui ressemblait beaucoup à ce qu'on faisait. Donc, c'était un peu embarrassant. En plus, il y avait beaucoup d'auteurs communs. Il y avait Strondheim, il y avait Fabio, il y avait des amis comme De Crécy. Donc on était un peu gênés de ça, parce que c'était tout d'un coup un éditeur qui avait plus de moyens que nous.
C'est plutôt à eux d'être gênés. Enfin, je...
Ah bon?
Oui, je pense, oui. C'est un petit côté... C'est gonflé quand même, non?
Ah oui, vu de ce côté-là, pourquoi pas. Bon, ce qui s'est passé, c'est que on a eu des mots, mais on n'est pas resté trop ennemis, parce qu'ils ont quand même une politique éditoriale qui nous semble bonne, et ils font un bon travail. Mais on était quand même embarrassés, et peut-être qu'eux, ils le sont aussi, je ne sais pas, de cette proximité de maquettes, de leur collection de bandes dessinées. Je parle de celle-là, je ne parle pas de leur autre genre de production où on ne remarque pas ça. Mais bon, c'est vrai que c'était tellement flagrant qu'il y a des gens qui faisaient l'amalgame, qui pensaient que La Mouche de Lewis Trondheim, c'était édité par l'association, il y avait beaucoup de problèmes. Quoi. Bon, en même temps, nous qui n'avions pas arrêté d'hurler, de réclamer la fin du standard 44 pages cartonné couleur, on voyait arriver des produits qui étaient sur la même longueur d'onde que nous, avec les mêmes genres de préoccupations. À la même époque, il y avait la collection Romans graphiques d'Autrement aussi, qui était des collectifs noir et blanc, très pointus, sur des thèmes contemporains, avec des auteurs contemporains aussi, avec des bons choix, une collection dirigée par Thierry Grunstein. Et bon, on ne pouvait pas non plus se plaindre que des éditeurs comme Le Seuil ou Autrement se mettent à la bande dessinée et s'y mettent quand même avec une sorte de discernement, se mettent pas à faire n'importe quoi non plus. Donc on avait une position mitigée avec ça. Et d'autre part, le fait que Le Seuil se mette à faire cette collection nous a ouvert des portes de librairie aussi, puisqu'ils avaient plus de possibilités à entrer chez des généralistes, là où on avait du mal à rentrer. Donc tout ça, en fait, était un système de vase communicant sur lequel on ne pouvait pas trop se plaindre. Mmh. Ce qui me gêne plus, c'est que ce côté, cette forme de bande dessinée qu'on défend maintenant depuis des années, c'est-à-dire qui est plutôt orientée sur le noir et blanc, sur le refus des genres, l'expression d'auteur, soit quand même un peu trop récupérée. Maintenant, chez la quasi-totalité des éditeurs, genre les nouvelles collections de chez Delcourt ou des Humanoïdes Associés, c'est évident qu'ils essayent de placer leur bille sur ce terrain-là, comme si c'était une nouvelle part de marché à prendre. Ce qui est gênant, parce que nous, on n'a jamais raisonné en part de marché à prendre. Donc, en fait, ce qui est la totalité de notre activité, eux, ils raisonnent un peu comme « bon, ben, on va faire un 10%, là, ça va faire un peu de presse, ça va faire un peu de prestige ». Et ça m'agace un peu plus. D'autant plus qu'il y a aussi la démarche d'aller vers des auteurs étrangers. Par exemple, Delcourt édite Charles Burns. À mon avis, il n'est pas très bien édité là-dedans. Il se retrouve dans une collection qui il est entouré de travaux qui, à mon avis, ne sont pas très représentatifs, pas très au point. Quoi. Et c'est pas très bon pour Burns de se retrouver dans cette collection-là. Ça aurait été mieux qu'il soit édité par Cornelius ou par nous.
Mais pourquoi qu'est-ce que vous entendez par pas très représentatif, quoi?
Ce que j'entends par là, c'est que ils font une collection comme ça, ces éditeurs-là, petit format noir et blanc, pour se placer sur ce qu'ils pensent être un marché. Donc, ils vont aussi faire la démarche d'essayer de publier des étrangers, des gens de qualité, et ils vont pas forcément le faire bien. C'est-à-dire que Burns se retrouve un peu noyé dans un catalogue qui est pas digne de lui. Alors que s'il se retrouvait à côté de Daniel Klaus chez Cornelius, bah, il serait beaucoup mieux à son aise et, à mon avis, il aurait plus de longévité. Parce que il y a une meilleure image de marque et surtout il y a plus de long terme.
Ouais, je comprends. Mais en même temps, vous leur rendez un petit peu, enfin, ces maisons d'édition, vous leur rendez un petit peu la monnaie de leur pièce, parce que là, vous venez de... Ben, je crois qu'il est là. Je sais pas exactement où il est. Vous tardiez à rejoindre votre équipe de oui. d'auteur.
Ben, tout ça est assez ambigu, ouais, parce que le fait qu'on soit fidèle à nos principes de base, qu'on continue avec la même rigueur ce qu'on a entrepris il y a presque 10 ans, fait que on est toujours suivi par nos lecteurs, nos adhérents, et qu'il y a des auteurs qui ont envie de nous rejoindre. Donc c'est vrai que d'abord Gossin ça fait un livre avec nous, ensuite Baudouin est venu continuer chez nous le travail qu'il avait commencé chez Futuropolis. On a fait 5 livres de Baudouin maintenant. Et c'est vrai que c'était un grand plaisir, un grand honneur de voir Tardy et Daninx arriver avec ce petit Varlo soldat à l'association. Donc ça c'est... Oui, je sais pas comment dire, ça fait beaucoup de plaisir, oui.
Ouais. Et c'est un des projets les plus importants en ce moment de l'association.
Bah, c'est pas un projet puisqu'il existe, ça y est.
Oui, pardon.
C'est fini. Bah, c'est vrai qu'il a été un peu dur. Il y a toujours des problèmes d'impression. Il faut pas en parler parce que c'est démoralisant. Personne ne le voit de toute façon. Mais bon, il a dû être refait pas mal, ce livre. Mais il est là depuis ce matin. Donc on le trouvera en librairie cette semaine normalement. Ben, c'est sûr que, par contre, au niveau tirage, c'est des volumes, des nombres auxquels on n'était pas habitué. C'est vrai que nous, nos meilleurs tirages, ventes, c'est aux alentours de 6 000. Et là, on a tiré ça tout de suite à 30 000. C'est beaucoup. Et c'est peut-être même pas beaucoup par rapport à ce que ça représente, puisque Tardy vend plus de 100 000 exemplaires chez Casterman. Donc nous, on a été raisonnables, mais on va voir, quoi. C'est vrai que ça prend de l'importance aussi.
Alors, vous revendiquez beaucoup la marginalité en bande dessinée. Mais est-ce que vous pouvez me donner une définition, c'est pas le mot juste, mais une explication de cette marginalité? Parce que je sais, par exemple, que vous aimez Claire Bretécher, et en même temps, c'est un auteur qui fonctionne bien dans de grosses maisons, qui fait même de la publicité à la télévision. Où est-ce que vous vous situez par rapport à cette question de marginalité de...
Ben, quelque part, Bretécher est marginal dans le contexte BD. C'est ça qui est intéressant, c'est que il y avait un critique il y a quelques années qui s'appelait Barthélémy Schwartz et qui écrivait sur la bande dessinée et qui parlait d'idéologie BD. Et c'est vrai que, quelque part, le contexte bande dessinée fonctionne comme une idéologie, c'est-à-dire on prend une facette seulement du moyen d'expression et on la met en évidence pour faire croire que c'est la totalité du genre. Et c'est vrai que la plupart du public pense que la BD, c'est simplement 13, Largo Winch, ces machins-là qu'on trouve chez Auchan et à la Fnac en pile. Et on imagine rarement, peu, qu'il peut se produire autre chose, c'est-à-dire quelque chose, entre guillemets, d'arrêt d'essai, entre guillemets, encore plus de guillemets, d'avant-garde ou je ne sais quoi. Mais autre chose que ça. Et en fait, cette espèce d'idéologie BD a produit un standard qui existe depuis les années 50, mais qui s'est émancipé et implanté dans les années 80 surtout, qui est le machin cartonné, couleur, 48 pages, série, héros, la suite au prochain épisode, machin. Et en fait, ça, c'est devenu un standard, c'est devenu un académisme, et on n'imagine presque rien à côté. Donc le simple fait de prendre le contre-pied de ça, c'est presque être marginal en bande dessinée. Et Bretécher, qui n'a rien à voir avec ce contexte-là, qui met jamais les pieds dans un festival, qui auto-édite ses albums, quelque part, même si elle a du succès, et moi j'aime bien ce qu'elle fait, quelque part elle est marginale par rapport à cette espèce de contexte, quoi, des professionnels de profession, comme dit Godard pour le cinéma. Mais... Bon, nous, c'est vrai qu'on s'est tout de suite positionné contre cette espèce de standard-là, mais que les frontières sont floues.
Oui, les frontières sont floues, parce qu'on pourrait presque, avec Tardy, vous reprocher, de tomber dans la norme, justement. Tiens, ben, il récupère quelqu'un qui fonctionne bien.
Bah non, parce que...
Mais expliquez-moi.
Parce que Tardy a déjà beaucoup de talent, c'est peut-être même le seul qui est un talent équivalent aux ventes... À des bonnes ventes, quoi. Ouais. C'est-à-dire, il est à la fois très talentueux et très grand public, et il y en a peu des comme ça, c'est peut-être même le seul vraiment. Et c'est pas un hasard s'il est à l'association. Je veux dire, des auteurs qui vendent plus que Tardi, ils se présenteraient à l'association qu'on n'en voudrait pas.
Ouais. Pas comme. Cité. Bon, ouais, on s'en fout. Bon, ouais. Bon. Ce qui fait aussi la particularité de l'association, c'est que vous avez toute une recherche théorique, enfin une réflexion théorique sur la bande dessinée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Vous avez envie de développer une collection essai ou...
C'est un vieux projet. J'aimerais bien que ça se fasse un jour, mais bon, on a comme ça beaucoup de vieux projets qui sont longs. Très long, se mettre en gestation, Loubapo, c'est long, c'est la recherche, c'est la science.
Parlez-nous un peu de Loubapo, justement. Qu'est-ce que c'est Loubapo ?
Alors, Loubapo, c'est l'ouvroir de bande dessinée potentielle. Donc, c'est né au sein de l'association en 92. Et c'est le pendant pour la bande dessinée de Loulipo, suffisamment célèbre. Et ici même, dans ce même tipi, le 10 mai, il y aura une soirée ou expo où chaque ouvroir, il y aura une dizaine de présents, je pense, appliquera un texte neutre, son moyen d'expression, et ce sera la contrainte du jour. Bon, voilà. Il y aura donc l'Outrapo, il y aura l'Oulipo, il y aura l'Oulipopo, il y aura l'Oupimpo et l'Oubapo.
Et que sont...
Ah ben, c'est revisiter chaque genre au moyen de contraintes. C'est-à-dire partir du principe qu'en se contraignant, qu'en se restreignant le champ d'action, on va peut-être faire émerger plus d'imaginaire, plus de création dans un espace plus petit.
Et vos autres projets ?
Loubapo ? Bah, il y a le projet de l'immeuble.
Oui, puis ensuite, oui. Bah, Loubapo d'abord.
L'immeuble, c'est terrible. Ça fait 4 ans que c'est commencé. À mon avis, ça mettra encore 10 ans pour sortir. C'est un projet de livre géant, d'immeuble en coupe. Donc, il se rapproche un petit peu de la ville mode d'emploi de Georges Perec ou du symbole de la maison de poupée. Et donc là, il y a 15-20 auteurs qui prennent chacun un espace, mais le problème, c'est que les personnages de chacun des auteurs se baladent dans l'immeuble. Il y a des caves, il y a des greniers, il y a des escaliers, enfin, c'est terrible, quoi. Ça, c'est un peu au point mort, là. Mais bon, on le sortira, hein, promis. Peut-être pas avant 10 ans.
Hein. On sera patient.
Il faut être patient avec l'association.
Mais vous en avez beaucoup, comme ça, des...
Des projets comme ça, oui. Il y a Chris Ware, par exemple, américain génial. On est d'accord depuis à peu près 2 ans ou demi, 3 ans, de faire une adaptation française de son œuvre ensemble, mais pour différentes raisons, c'est très très long. Je pense que là, il faudra encore une paire d'années aussi avant que ça voie le jour. Lupus 2, Loubapo, ce sera long aussi. Des choses longues comme ça. Certains livres qui deviennent mythiques, la collaboration entre David B. et Thomas Sott, ce sera très long aussi. Le livre de Dominique Goblet, ce sera peut-être très long. Des choses comme ça. On les annonce dans le catalogue, d'une année sur l'autre, comme le projet n'a pas disparu, on les réannonce. Alors ça devient comique. Mais bon, ils finissent par exister, ces choses.
Là, vous avez sorti un numéro de Lapin pour la jeunesse, enfin pour les enfants, pour la jeunesse, oui. Vous pouvez nous en parler, hein. Pourquoi ça vous orientait vers les plus jeunes d'un coup
Comme ça, pour rigoler.
Bon.
En fait, ça, c'est le lapin avec la couverture quadri. Là, c'est la première publication de l'association avec de la couleur. Et si on a fait ça, c'est simplement parce que c'est un partenariat avec le salon du livre de jeunesse de Montreuil, qui voulait faire quelque chose avec nous depuis quelques années et qui nous a proposé un partenariat, faire un objet plus dirigé vers la jeunesse que les autres choses qu'on fait, même si y a pas mal de bouquins qu'on fait qui sont tout à fait lisibles par quiconque, de quel âge. Donc on a fait un lapin qui s'appelle Bande dessinée pour la jeunesse. Et, bon, c'est un peu amusé à le faire. Hein. Donc l'axe était plutôt urbain, c'est-à-dire on parlait plutôt non pas à des tout petits, mais à, disons, des ados de 13-14 ans, impliqué dans un milieu urbain. Ça, c'était un peu l'axe souhaité par Montreuil. Donc, ça, je l'ai divulgué aux auteurs qui en ont fait ce qu'ils ont voulu. Il y en a qui ont suivi ça, il y en a qui ont fait le contre-pied de ça. Il y a des choses là-dedans qui sont de manière évidente, complètement provo par rapport à un contexte jeunesse. Puis il y a des auteurs qui ont vraiment pris le parti de s'adresser sincèrement à une personne fictive de 14 ans, en voulant vraiment lui transmettre des choses, par exemple des souvenirs d'enfance, de la propre enfance de l'auteur, de la même époque, des choses comme ça. Ou bien une sorte de vision du monde. Ce qui fait que le truc est très hétéroclite et qu'à l'arrivée, ce numéro de lapin peut vraiment donner une vision du monde adulte à quelqu'un d'ado, je pense. Mais le problème, c'est que c'est très difficile d'atteindre comme ça un public adolescent avec un objet comme ça. C'est par hasard qu'il trouve cette chose-là. Sinon, c'est par le biais d'adultes, soit des parents un peu plus ouverts que les autres, qui disent bah oui, ça c'est une bonne chose, on va le montrer à nos enfants qui ont cet âge-là. Ou, sinon, c'est quand même beaucoup plus difficile, quoi. Mm-hmm. Donc en fait, bande dessinée pour la jeunesse, totalement hypothétique.
Sinon, vous êtes parti en Égypte, vous avez sorti un album. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis vous avez
ça, c'est un autre partenariat.
Comme projet d'aller au Mexique aussi ensuite.
Ouais. Donc ce livre-là, l'association en Égypte, c'était une commande officielle d'un organisme qu'on peut peut-être même maintenant citer, mais qui ne voulait pas être cité dans le livre.
Pourquoi?
Bah, je vais vous raconter ça. C'est ouais. Donc c'était l'année France-Égypte et l'AFA, qui dépend du ministère des Affaires étrangères, a voulu faire un livre avec l'association et a envoyé quatre auteurs sur place pour faire des reportages sur l'Égypte contemporaine. Donc quatre auteurs, donc il y en a un qui était sur place, c'était Golo, qui habite au Caire, et les trois autres sont partis de France pour aller là-bas, dans quatre lieux différents. Et la mission, c'était de faire un reportage en bande dessinée de 15 pages sur le lieu qu'ils ont vu. Donc en 98, tout le monde a fait ce reportage-là, et le livre était sur le point de sortir, mais le problème, c'est qu'il y a eu ce gros attentat de Louxor que moi je raconte parce que moi et Zab, on était juste à côté de cet attentat. Et c'était assez traumatisant. Et les conséquences de cet attentat-là ont fait que les diplomates français, les gens, les Français sur place, sont devenus complètement parano et ont pris beaucoup, vraiment très très peur des intégristes et n'ont pas voulu laisser sortir ce livre qui parlait d'une part, moi je parlais de l'attentat, Baudouin soulevait certains autres problèmes de l'Égypte contemporaine comme l'excision, des choses comme ça, l'islamisme était soulevé à la fois par Baudouin et par David B, enfin le tout formait une sorte de cocktail qui était peu recevable aux yeux des diplomates français sur place. Donc ils ont exigé, d'abord ils ont voulu censurer le livre tout simplement. Bon, ça, je pense qu'on leur a expliqué, enfin, en haut lieu, que c'était peut-être un peu maladroit. Donc finalement, ils ont juste demandé à ce que le logo de l'organisme officiel n'apparaisse pas. Donc, en fait, l'organisme officiel a honoré ses engagements financiers, partenariats et tout ça avec nous, mais par contre, il n'est pas apparu sur le livre. En même temps, la presse s'est un peu emparée de cette petite histoire, a parlé de censure, a parlé de micro-scandale, et bon, bah, on n'a jamais eu autant de presse pour un livre que pour celui-là. Donc finalement, l'un dans l'autre, l'ambassadeur aurait mieux fait de... Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu vraiment beaucoup d'avis d'Égyptiens, d'autres Arabes, qui trouvent ça très intéressant, parce que taire ce genre de choses, c'est faire le jeu du terrorisme, c'est faire le jeu de l'islamisme, et c'est pas un hasard si ce bouquin est en vente à l'Institut du Monde Arabe, quoi. Alors que les diplomates français en Égypte ont voulu le censurer, quoi. Donc là, il y a une espèce de décrochage entre
qu'est-ce qu'ils craignaient
des représailles pour les ressortissants français là-bas, des choses comme ça.
Est-ce qu'il peut...
Bon, c'est vrai que quand on vient d'entendre qu'il y a 70 personnes égorgées à deux pas de la porte, etc., ça, c'est vrai que c'est pas évident, mais faut parler de ces choses-là, sinon on n'en sort pas, quoi.
Et là, vous allez renouveler l'expérience.
Oui, donc, ce livre a eu pas mal de succès. Il y a eu d'autres auteurs qui ont eu envie de faire des reportages, des voyages similaires. Et donc, quand ce bouquin est sorti, on a très vite eu envie d'en faire d'autres, de faire d'autres recueils de reportages en bande dessinée. Et un peu par hasard, le Mexique s'est imposé, par hasard, parce qu'un ami de Guillaume, qui travaille à l'association, est là-bas dans une institution française, qui lui s'est assez impliqué dans le projet, qu'il a pris des contacts, et puis qu'il y a des auteurs qui étaient très intéressés par le Mexique. Donc on va faire a priori un deuxième livre, l'association au Mexique, avec 4 voyages cette année, qui sortirait peut-être à Angoulême prochain, avec comme auteurs Kilofer, Vanoli, Dominique Goblet et Thomas Hoth. Donc l'AFA nous aiderait à nouveau sur ce projet, comme quoi elle n'est pas rancunière finalement. Mais de toute façon, c'était pas son problème, enfin c'était pas de sa faute. Les tourments qu'il y a eu, quoi, c'était vraiment sur place que ça s'est passé. Donc l'AFA est d'accord pour aider les 2 Français qui partiraient au Mexique. Malheureusement, on a choisi aussi une Belge et un Suisse, et là ils peuvent rien faire. On est comme ça.
Bon.
Mais on aimerait bien faire un livre de voyage par an comme ça.
Et de voyage où, enfin, peu importe.
On ne sait pas, mais
pas.
Le principe est intéressant, quoi, c'est-à-dire 4 auteurs qui partent dans un pays, donc 4 localités différentes du pays, qui ramènent un témoignage, un reportage sur ce qu'ils ont vu de ce pays. C'est tout simple. Donc, ça peut être en Russie, ça peut être... Bon, évidemment, on peut éviter les endroits où on se fait tuer forcément, mais...
Un peu plus drôle. Vous avez quelque chose à rajouter avant la...
Ah bon, c'est fini déjà.
C'est presque fini.
Mazette. Ouais. Bah, je sais pas. Demandez aux gens qui sont là de poser des questions s'ils ont envie.
Bah, d'abord, enfin, vous avez pas envie de développer quelque chose, une idée.
Une idée.
Revendiquer.
Bah, on a fait un peu le tour. Hein, de ce qui se passe en ce moment. Bon, a priori, donc, ce projet de 2000 pages là, devrait déboucher sur une exposition association à Angoulême au CNBDI en janvier 2000 prochain. Et ce sera une exposition à moitié sur ce projet de 2000 pages et à moitié sur les 10 ans de l'association, puisqu'on aura 10 ans l'an prochain. Donc ça, c'est a priori une grande rétrospective, mais peut-être un catalogue à la clé. Voilà. Sinon, il y a plein de petites choses qui se passent d'intéressantes. Il y a le festival de Bastia qui est très intéressant par rapport à Angoulême. Bastia se présente comme quelque chose qui n'est pas axé sur l'aspect commercial des choses, où on rencontre les auteurs de manière conviviale. Il y aura des bonnes expositions, ça c'est du 11 au 13 mars. Sinon, quoi d'autre ? Le festival de Lucerne aussi en Suisse alémanique est très bien. Et le festival de Fiols dans les Pyrénées-Orientales au mois de juillet, chez Alex Barbier. Voilà des bons festivals.
Mais vous me disiez tout à l'heure que le succès qui arrive vous faisait un petit peu peur, vous dérangez vous...
Comment dire, moi j'ai jamais prévu ça, donc c'est embêtant. J'avais pas, je voulais dessiner, c'est tout. Hein. Là je dessine plus, c'est quand même embêtant. Voilà.
Et vos projets propres, vos projets d'auteur?
Bah justement.
Ils sont en panne.
Il y a la bestiole dont je parlais tout à l'heure là, qui réclame beaucoup. Non, mais j'espère que cette année ça peut changer, parce que c'est vrai que l'association a tellement grossi qu'elle a pu embaucher suffisamment de personnes, et je pense que je peux maintenant déléguer un peu plus de choses et récupérer du temps personnel entre autres pour dessiner, quoi. Parce que c'est vrai que je ne me vois pas passer des années de plus avec ce rythme-là où je me sens quand même en position un peu de sacrifice de ma propre création par rapport à cette structure-là. Même si l'aventure est formidable, j'y trouve pas non plus tout à fait mon compte. Quoi.
Et vos projets propres, qu'est-ce que vous auriez envie de faire comme prochain album?
Faut que je parle de mon divorce, faut que je parle de mes moines. Il faut que je parle du trou là-bas aussi, avec le kiwi et puis le mammouth et tout ça. faut que je parle de peut-être ouais, de bon, ce bon vieux Lapo, pourquoi pas, il peut faire quelque chose, je sais pas. Oui, il y a plein de choses. Ouais.
Plein de projets. Enfin, je veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais peut-être que se surcharger de travail, c'est une excuse aussi pour pas faire ce qu'on a vraiment envie de faire, non?
Ah ouais, c'est vrai. J'avais oublié.
C'est vrai, c'est de la psychologie de comptoir.
Non, mais je pense qu'à un moment, le fait de m'être investi autant dans une structure éditoriale, c'est parce que c'est vrai que je peut-être problème avec ma propre création ou pas savoir où aller, quoi faire. Mais c'est vrai que là, c'est plus tout à fait les mêmes données que j'ai des directions très précises où aller, des envies très très nettes de quoi faire, quoi. Et que j'ai pas trop le temps de les faire, mais bon, en même temps, si j'avais le temps de les faire, je les ferais peut-être pas, je me mettrais peut-être à la musique, j'en sais rien, si ça se trouve. C'est compliqué tout ça. Ce qui est vrai, c'est que j'aimerais bien au moins dégager un peu de temps de bande dessinée création par rapport à la bande dessinée édition qui est l'association. Et c'est vrai que là il y a un échange dynamique, quoi. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Mais si je ne fais que de l'édition et que je ne fais plus un seul dessin, ben je râle, quoi. Je suis de mauvais poil.
Pourquoi, comme d'autres, enfin je pense à Lewis Trondheim, pourquoi est-ce que vous ne publiez pas dans d'autres maisons d'édition ?
Ben déjà parce que je ne publie pas dans la propre mienne, parce que je n'ai pas le temps, ouais. Comme je viens de le dire.
Enfin, si, vous publiez quand même chez vous. Vous avez publié des choses chez vous.
Oui, mais pas beaucoup. Ouais. Un petit peu. Ben, à l'association, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Chacun est libre. Lewis Trondheim est libre de faire une carrière grand public s'il en a envie. Il en a toujours eu envie et pourquoi pas. J'ai rien contre ça. Du moment que les principes de l'association et les gens qui l'ont fondée restent intègres à l'intérieur de l'association. Et c'est vrai que bon, bah, Lewis fait toujours partie de l'association, qu'il a toujours son mot à dire sur l'aspect éditorial des choses, et que le groupe des 6 qu'on forme depuis maintenant presque 10 ans, malgré des tourmentes évidentes, reste debout, quoi. Et je pense que si ça reste debout, c'est parce qu'on est tous très différents, parce qu'on a tous des motivations différentes, et parce que c'est une alchimie bizarre qui a fonctionné à ce moment-là et qui perdure. Parce que c'est vrai qu'on se ressemble très peu, en fait. Entre Matt Conture, Lewis Trondheim, Stanislas, David B., Kilofer et moi, il y a des points communs, mais on est très différents, quoi. Et bon, par exemple, on a un Lewis Trondheim qui fait 4 livres par an chez Dargo, chez Delcourt, etc. Et puis Matt Conture qui creuse son sillon et qui fait ça soit chez Chacal Puant, soit à l'association, quoi. Tout ça est très différent, alors qu'on était parti d'une sorte de point similaire pour chacun. Donc il y a des creusets qui se... Enfin, des choses qui se creusent, et puis géographiquement, on est un peu loin maintenant aussi. Donc le fait que tout ça continue à exister est assez étrange.
Et vous, ça ne vous tente pas d'être édité par un autre éditeur ? Enfin, je peux comprendre que ça puisse être agréable aussi de ne pas s'auto-éditer, enfin même.
Bah, dans le, j'aurais rien contre dans l'optique où j'aurais du temps pour ça, où je pourrais faire par exemple comme un David B, c'est-à-dire à la fois faire au moins un livre par an qui me tient à cœur à l'association, et puis aussi faire des projets en collaboration avec d'autres ou bien seul pour gagner ma vie. Chez Zindargo, par exemple, puisqu'on parle de lui. Je ne sais pas. Peut-être que je pourrais, moi, réussir à trouver un projet qui m'intéresse. J'aurais pas dû de... Bon, je ne sais pas s'il voudrait, moi, après le mal que j'ai dit d'eux. Mais...
Oh, je pense que ça...
Mais bon, Guy Vidal est très sympathique. Maintenant, c'est lui qui s'occupe de tout.
Qui ça ?
Guy Vidal.
Guy Vidal.
Donc... Si j'ai une série ou si j'ai un truc comme ça, j'irai voir Guy Vidal. Ouais, mais bon. Je voudrais d'abord faire des livres pour l'association avant d'aller voir Guy Vidal, quoi.
Bien, ben, on attend vos questions. S'il y en a.
À partir du moment où vous visez un public entre guillemets élitiste, enfin on peut parler de public élitiste pour l'association, est-ce que vous ne risquez pas à un moment donné de, disons, de plafonner, même si ça a connu un essor, j'imagine, de 1990 en 2000, puisque vous aviez dit que ça a pris des proportions que vous n'imaginiez pas, mais est-ce que ça ne risque pas de plafonner à un moment donné par rapport à une politique éditoriale qui est bon, comme vous l'avez dit, assez intransigeante?
Ben, j'ai dit intransigeant, mais j'ai pas dit élitiste. Je considère pas qu'on soit élitiste dans la mesure où c'est de l'expression d'auteur, c'est on se ferme pas à l'écoute, à la lecture. On se positionne par rapport à un marché grand public et on se positionne contre ça. Mais ça veut pas dire pour ça qu'on est élitiste. Le fait que des auteurs comme Baudouin ou Tardy nous rejoignent prouve que ils peuvent publier chez nous, quoi. Je vois pas où est l'élitisme là-dedans. Donc le plafonnement dont vous parlez, je sais pas. Là, je le vois pas venir, quoi, pour l'instant. Il y a de plus en plus de projets, de plus en plus d'auteurs étrangers à traduire, de plus en plus d'ouverture, de perspectives, de nouvelles collections possibles. J'aimerais faire de plus en plus de livres hors collection aussi. Que ce soit, bon, le premier, ça a été La Grande Familia de Thomas Ott, qui est un livre de photos, en fait de photos d'installation narrative. Donc, c'est en marge de la bande dessinée, mais si on fait ce Chris Ware, ce sera aussi un hors collection, ce sera un grand format probablement, très bizarre. Tout ça va dans tous les sens, donc moi je vois pas de limite à tout ça. C'est bien ça qui me fait peur d'ailleurs.
Je voudrais savoir quel est l'intérêt de rester sous forme associative, parce que maintenant ça fonctionne comme une boîte d'édition. Est-ce qu'il y a un intérêt de rester sous forme associative ?
Ben, y a plusieurs raisons à ça, mais c'est vrai qu'on demeure une association de loi 1901 et que a priori on va le rester. D'une part, ce serait un peu, vu qu'on a des principes quand même de base assez militants, assez rigoureux, et qu'on s'appelle l'association, ce serait un peu malvenu de tout d'un coup passer en SARL et de continuer à s'appeler l'association. Donc ce serait un peu bizarre. Mais je dois avouer qu'on s'est posé la question à un moment donné, et que pratiquement c'est quasiment impossible, dans la mesure où quand on est une association de 1901, on ne peut pas passer comme ça le capital qu'on a dans une SARL. C'est quasiment impossible. L'association a juste le droit d'être un des actionnaires. Donc il faudrait trouver deux autres gros actionnaires pour faire une nouvelle société. Et tout ça, c'est extrêmement compliqué. Et faire passer l'argent et les structures d'une structure associative à une structure SARL, c'est quasiment impossible, quoi. Donc à la fois éthiquement et pragmatiquement, on reste association.
Vous comptez combien d'adhérents maintenant ?
Il y a environ 1700 personnes qui ont adhéré au moins une fois, et pratiquement il y en a un millier environ par an qui sont fidèles. Il y a des gens qui réadhèrent, d'autres qui n'adhèrent qu'une seule fois, d'autres qui arrivent, etc.
Oui, moi, c'est pas une question, c'est une réaction d'un professionnel de la profession.
Ouais.
Sur Charles Burns.
Ouais.
Charles Burns, c'est pas du tout isolé dans le catalogue des éditions Delcourt. Je travaille chez Delcourt.
Ouais.
Guy Delcourt a publié Carlos Nin il y a 5 ans, Dusienkiewicz il y a 10 ans, bon, McKean cette année, Jason Lutz, Adrien Tomin. Voilà, c'est tout.
Oui, si tu veux.
Je veux. Non, en fait, je voyais un peu de manichéisme quand même quelque part. C'est que comment peux-tu reprocher à un éditeur de publier des livres ? C'est pas, il n'a pas fait Enfin, je ne sais pas, Casterman n'a pas attendu l'association pour publier Munoz.
C'est clair.
Bon, où est le problème, quoi? Où est le problème?
Le problème, c'est que c'est pas ça qui fait vivre Delcourt. Et Delcourt, on ne le connaît pas par ça non plus. Delcourt, on le connaît avant tout pour les règles fantasy, pour les séries, pour une forme de bande dessinée que moi j'apparente à du standard. Maintenant, le fait qu'en marge d'éditeurs comme Delcourt, il y a des choses bien qui soient faites, j'ai jamais dit le contraire. Même Glénat a fait Breccia. Mais bon, si quelqu'un est chez Glénat ici et me dit « Oui, mais on a fait Breccia », je dis « Ok, mais bon, il ne faut quand même pas déconner. » Bon,
c'est peut-être pas... Quand on fait des je ne veux pas le défendre à tout prix, mais quand on a une collection étrangère, je ne veux pas rentrer dans le problème de collection française, mais quand on fait une collection étrangère depuis 10 ans, avec des ouvrages comme ceci, on peut peut-être dire que ce n'est pas forcément la recherche d'un alibi, mais un vrai travail d'éditeur.
Qui essaie d'élargir et de trouver
des publics. Il n'y a pas un public.
Je parle de la collection récente, je ne parle pas d'autre chose. Moi, je la trouve décevante, cette collection. Et je trouve décevant que Black Hole soit dans cette collection. Je trouve qu'il aurait été mieux édité par Cornelius. Ça, je le dis. Maintenant, le bouquin de Cages que Delcourt a fait, je trouve impressionnant de l'avoir fait, d'avoir osé le faire, par exemple. Je ne suis pas si manichéiste que ça, mais là où je me suis prononcé tout à l'heure sur cette collection noir et blanc, ce qui m'agace, et c'est valable aussi pour la collection des Humano, c'est que la forme de bande dessinée qui, à la base, était en fait une sorte de réaction nous à un standard, est finalement reçu par entre guillemets les gros éditeurs comme une nouvelle possibilité de standard. Ça m'agace et ça m'inquiète, parce qu'on peut maintenant y mettre n'importe quoi. Et donc on peut y juxtaposer Charles Burns avec quelqu'un de pas très au point français qu'on va peut-être mettre là en guise de bande essai pour voir s'il pourrait pas faire une série après. Voilà, c'est ça qui me chagrine, moi.
Attendez, oui. On vous amène un micro.
Les lecteurs eux-mêmes ne suivent pas forcément et n'achètent pas toujours ce qu'on leur dit d'acheter. Donc effectivement, le fait que Burns soit dans une grande vitrine comme Delcourt, ça le met à la portée de tout le monde. Je ne vois pas effectivement, comme le monsieur, où est le problème.
Non, mais...
Je trouve que finalement, ils ont du mérite à ne pas rester dans cette facilité qui est de faire forcément du commercial et des choses faciles et vite avalées et vite oubliées. Et puis, ça permet aussi à des gens qui ne connaissent que ça, d'un jour peut-être lire Burns, parce qu'ils ont l'habitude de Delcourt, de même que ceux qui aiment Tardy vont découvrir l'association, parce que vous venez d'en publier un. Alors finalement, je trouve que c'est le bon exemple et... Moi, oui. Ça me convient.
Certes, mais bon, il est mal imprimé, ce livre, voilà, c'est tout.
Oui, voilà, c'est ça.
Non, je vois où le problème peut venir de ce genre de réaction chez des éditeurs comme Delcourt et les Humano, c'est que on va arriver à une espèce de coupure, la production noir et blanc, la production couleur, pour des problèmes financiers. C'est beaucoup plus cher de faire de la couleur. Alors ce qui va se passer, c'est que si tous les grands éditeurs font leur petite collection noir et blanc, par exemple, on risque de se retrouver avec des gens comme Nicolas de Crécy, où là il y a un intérêt évident à faire de la couleur, ne puisse plus en faire. Parce qu'il n'aura pas justement ce côté série standard, donc on va lui dire « oui Coco, fait de la bande dessinée, mais va nous faire un petit album noir et blanc, pas cher à faire. » Parce que dans cet aspect, au-delà de l'aspect artistique aussi, entre le noir et blanc et la couleur, il y a l'aspect financier. D'accord ?
Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Nous, on commence à faire de la quadrille, tu vois. On en a mis dans le Lapin 22. On a 2-3 livres en projet en quadrichromie. Donc, finalement, les choses se mélangent. Quoi. C'est assez flou. Et non, à mon avis, si on va chercher de Crécy, c'est plutôt pour lui demander de la couleur que du noir et blanc.
Non, mais vous, ok. Mais ce que je veux dire, c'était par rapport, sans réponse à la dame et au monsieur derrière, c'est que chez les grands éditeurs, il va... En fait, on va risquer d'avoir, ça risque de devenir très difficile dans l'avenir de faire, d'avoir une démarche d'auteur, parce que ça me gêne un peu quand même aussi cet aspect-là, quand on dit auteur et produit standard, parce que peut-être que les gars qui font de l'heroic fantasy chez Glénat et chez machin se considèrent aussi comme des auteurs et racontent les histoires qu'ils ont envie de raconter. Mais c'est pas un éditeur derrière qui lui impose de dessiner des gros nénés à la page 5 et un crypto laser à la page 6.
Non, non, ça s'est très bien passé dans les neurones des auteurs.
Et donc, c'est-à-dire qu'on, au-delà, moi, ce qu'il y avait d'intéressant dans l'association, c'était justement cette position en marge et non pas contre. C'est là que ton discours me dérange un peu quand même. Il y a le côté un peu contre. Des produits standards, alors que c'est en marge. Après tout, il n'y a pas besoin de brûler Glénat pour que l'assaut existe.
Si. C'est sympa de brûler Glénat, je trouve.
Ouais. Les autodafés, quels qu'ils soient, c'est pas terrible quand même.
Non, mais bon. Si mon discours paraît manichéiste, j'y peux rien. C'est parce que l'association est vraiment née comme ça, est vraiment née de. En fait, d'exaspération. Donc, par rapport à ça, c'est difficile pour moi de tenir un discours aujourd'hui œcuménique, conciliant, et bravo Guy Delcourt, puisque tu fais ci et ça, et bravo Glénat d'avoir fait Brescia. J'ai du mal, parce que je ne peux pas m'empêcher de voir la caution culturelle là-dedans.
Non, mais je crois qu'il y a un malentendu. Je crois que l'association n'interdit rien. Quoi. Elle a simplement eu envie d'apporter sa pierre, quoi, d'inventer quelque chose et de. Voilà, quoi. C'est pas.
Oui, mais non, mais c'est vrai aussi, et je pense qu'il y a des gens dans le public qui le savent, c'est qu'on a toujours eu aussi une attitude assez polémique.
Mais non, mais la polémique, c'est bien. Quoi. Enfin, c'est pas le Troisième Reich, l'association.
Non.
Voilà, quoi.
Non, merci de le dire. Surtout qu'on est stalinien depuis le début, donc c'est important de le dire.
Bon, ben voilà qui éclaircit les choses. Une autre question.
Je voudrais aborder un problème qui n'a pas du tout été abordé dans la soirée. C'était à la fois le relais médiatique et en même temps le problème posé par l'absence d'une critique en bande dessinée. Puisque actuellement il existe de très bonnes revues de critique de bande dessinée. Je pense à l'Indispensable, quelque chose qui fait de bonnes choses. Mais ça reste quand même très très peu répercuté. Et en même temps, un grand public, on peut penser à des grands quotidiens nationaux ou même les Inrecuptibles, qui restent quand même très timides, alors que la production escalée, il y a l'association, il y a en même temps même des produits standards qui sont de bonne qualité aussi, dont on ne parle pas assez, alors que la bande dessinée vend. Et je pense quand même qu'il y a une absence de critique actuellement en bande dessinée qui est assez préjudiciable au genre.
Bah oui, mais ça c'est... Ça vient de la mauvaise image de marque de la bande dessinée, quoi. Elle a une image de marque déplorable, et ça vient du standard, ça vient de 13, ça vient de l'Argo Winch, ça vient de machin, truc, chouette, truc. Et c'est ça qui empêche d'avoir un discours crédible là-dessus. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une sorte de barrage de la part de la presse, de ne pas en parler, quoi, parce que ça, à la limite, ça la fout mal de parler de BD, parce que c'est quand même un peu machin, un truc pas propre, quoi. Et donc il y a une espèce de refus total du fait que la bande dessinée est un moyen d'expression et qui peut générer d'autres choses que ce machin-là de supermarché. Et j'en reviens à mon obsession du produit standard qui empêche à d'autres bandes dessinées de respirer. Et c'est vrai que c'est très difficile à bouger ça. Et bon, C'est vrai qu'il n'y a aucune tribune pour la bande dessinée dans la presse. On en parle au moment d'Angoulême, c'est juste devenu un marronnier parce que c'est creux. Et puis bon, bah, on va parler d'Angoulême, comme ça, ça va remplir de la place. Et quant aux inoccupables, n'en parlons pas, quoi. Parce qu'eux, ils font un supplément BD.
Mais, ah oui, c'était bien, vous m'en avez parlé là tout à l'heure. Bon,
il faut payer pour être dedans, hein. Ouais. Je vous raconte que ça.
C'est combien pour
Ah, c'est 15 000 francs.
C'est 15 000 francs. Oui. Pour être dans le supplément BD des Inrecuptibles.
Oui.
Et qu'est-ce qu'il publie pour 15 000 francs? Une planche,
une avant-première de 3 petites pages et puis une notule.
C'est pas une publicité, c'est...
Non, c'est pas présenté comme ça, c'est présenté comme le choix des Inrecuptibles.
D'accord, voilà. Ben, c'est bien de le dire. Non, c'est bien, c'est intéressant.
Je pense que c'est des choses qui doivent se savoir, effectivement.
Ben, moi, je le savais pas, mais je suis content de le savoir.
Mais bon, il paraît que ça se pratique comme ça avec la musique, que c'est normal,
ouais.
Qu'il faut accepter ça. Mmh. Bah non.
Bah non.
Pas d'accord. Donc il voulait mettre le prochain album de David B. Dans ce truc-là, d'Angoulême. Je leur ai dit que ce qu'il demandait, c'était plus cher que ce que l'auteur avait touché et plus cher que ce que le livre avait coûté à fabriquer. Donc ça va, quoi. Faut ouais. Pas déconner non plus. Voilà, la presse.
Alors, par rapport à ce que vous dites sur la BD qui serait un petit peu mal aimée, c'est le même cas pour la jeunesse d'une manière générale. Tout ce qui est production, édition, jeunesse, on n'en parle pas. Au niveau de la critique, il n'y en a quasiment pas.
Mais là, ce soir, c'est la BD. Pas... On en...
Oui, oui, non, mais je vous dis, il n'y a pas que la BD.
Oui, non, il y a plein de choses aussi. Il y a des enfants très malheureux, enfin... C'est vaste.
Il
hein,
ne faut pas tout mélanger non plus.
Ben, justement, c'est ce que je vous dis. C'est, je ce soir,
non,
c'est la
non,
BD.
Non, mais je vous parle de livres, là. Il me
oui,
semble
mais
que
de
la
bandes
BD,
dessinées.
C'est des livres et la production jeunesse, c'est des livres aussi.
C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de poésie non plus. Mais...
Ouais. Et de la poésie aussi, voilà. Donc, et puis, je voulais, pour information, parler d'un magazine qui est sorti le mois dernier, je crois, qui s'appelle Bachibouzouk. Et il y a un article sur David B.,
Oui, il n'était pas content du tout, d'ailleurs.
Ah bon ? Pourtant, c'était gentil.
Oui,
un peu trop, peut-être.
C'était surtout imbécile.
Il y avait un portrait de Sfar et on peut au moins y regarder.
Mais oui, mais ça, c'est rien, ça, ce truc-là. C'est pareil, on ne sort pas du microcosme. Quoi. Effectivement, il parle de Lewis, de David, ok, mais... Bachibouzouk, on ne sort pas de Tintin, et puis quoi non, vraiment. C'est...
Le fait de mettre Tintin à côté de Sfar, ça peut
l'emmerder.
Moi, je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement, mais il me semble que pour les lecteurs du magazine, ça peut leur donner des idées, voilà, c'est tout. Je ne sais pas comment va réagir l'auteur, mais pour le lecteur... Au moins, l'information circule, d'une manière.
Mais quel lecteur ?
Il ne faut pas être toujours méfiant. Ils ne sont pas tous...
C'est du... On ne sort pas du truc spécialisé avec ce genre de machin. Quoi. Là, on parlait de l'absence de tribune qu'a la bande dessinée dans le reste de la presse. Et vous me parlez d'un truc qui vient de se créer, qui parle que de bande dessinée, qui s'attache que aux amateurs de bande dessinée, que aux fans de bande dessinée. On n'en sort pas. C'est ça que je veux dire. Puis en plus, ça s'appelle Bachibouzouk.
Ben moi, c'était pas vraiment une question que j'avais à poser. C'était petit constat. Donc, il y a 15 ans, vous étiez là avec quelques photocopies, à faire des pliages, des agrafages. Et aujourd'hui, vous êtes au centre d'un groupe. Avec ses publications et...
groupe, je sais pas.
Mais c'est une
petite entreprise.
Oui, une petite entreprise. Mais bon. Et ben, je pense que ce qui a fait, contrairement à peut-être des milliers de personnes qui ont auto-édité des bandes dessinées en photocopie, c'est la différence, c'est un discernement ça, et aussi une force de conviction dans des... Bon, enfin, c'est un peu... Et puis je pense que vous ne seriez pas développé aussi si vous avez dit en SARL. Ce qu'il faut dire à la personne qui a posé la question tout à l'heure, c'est que Une SARL est axée sur les stocks et une maison d'édition qui va faire une production qu'on appelle de vente lente, de petite diffusion, va être très fortement taxée sur un patrimoine en fait, qu'elle ne vend pas tout au long des années, qui est considéré comme un actif.
Mmh. Oui, enfin, il y a des nouvelles lois sur les associations qui sont en train de passer là, pour le mois d'avril. Et en fait, on va avoir les mêmes assujettissements qu'une société. Donc ça, ça pose des problèmes aussi. Mais bon, merci pour le discernement et tout ça.
Oui, je reviens sur le tardi là, qu'on découvre. Avec, j'espère qu'on pourra s'y jeter un peu un coup d'œil après. Mais la maquette ressemble vachement à ce qu'il faisait déjà chez Casterman dans les romans BD. Est-ce que c'est volontaire de l'association ou est-ce que c'est l'héritage de l'environnement Tardy éditorial tel qu'on l'a eu? Et puis, est-ce que l'arrivée de Tardy a un rapport quelconque avec la disparition d'Assuivre?
Pour la ressemblance, c'est parce que c'est Tardy qui a fait les couvertures, les deux, quoi. Parce que je pense pas, enfin, je vois pas trop la ressemblance avec. Un livre de chez Casterman, mais peut-être, hein, ça doit venir de Tardy, je pense. Mais le fait que Tardy soit venu avec Daninx pour ce projet, c'est à la fois un concours de circonstances, puisque c'était une commande d'un festival de polar, je ne l'ai pas dit tout à l'heure déjà, non ? Je ne me souviens plus. Non, hein, je ne l'ai pas dit. Donc à Mons, en Belgique, donc ce festival de polar a commandé un inédit à Tardy et Daninx. Et ce festival n'était pas éditeur, il cherchait une maison d'édition. Et donc Tardy, qui voulait faire quelque chose avec nous depuis un moment, nous a proposé, et ça s'est fait comme ça. Mais je sais qu'il a des problèmes avec Casterman, et ça explique aussi peut-être ça.
Dernière question, peut-être.
Merci. On a évoqué tout à l'heure la question des publications pour la jeunesse. Et justement, ça m'a fait réagir, puisque Lapin a, semble-t-il, des problèmes avec non pas la commission de contrôle des publications pour la jeunesse, mais avec la commission paritaire. Et donc Lapin, qui est une revue trimestrielle et qui existe depuis maintenant plus de 20 numéros, n'est toujours pas reconnue comme revue au titre de la commission paritaire. Peut-être qu'il y a quelque chose à en dire aussi.
Oui, c'est vrai, j'ai fini par oublier à force, mais c'est pas normal. Normalement, une revue qui est trimestrielle, qui est une revue, a un numéro de commission paritaire et donc des avantages fiscaux, des avantages postaux et on n'a jamais bénéficié de ça. On a eu 4 refus successifs, tous plus obscurs les uns que les autres. Et Thierry Grunstein m'a demandé de faire un article là-dessus dans la revue du musée de la bande dessinée qui s'appelle 9e Art, qui est une excellente revue que je vous recommande. Numéro 4 qui vient de sortir. Et qu'en penser, je ne sais pas. Je ne connais pas ces gens. C'est sûrement d'obscurs fonctionnaires qui ont des drôles d'idées. Mais ce qui est en tout cas évident, c'est que leurs arguments ne tiennent pas la route. Mais parfois on nous dit, ça ne parle pas d'actualité là-dedans, ou non, il faut mettre plus de texte là-dedans. Bon, et voilà, on continue à payer 18 francs par paquet, par abonné, alors que ça nous coûterait moins de la moitié si on l'avait, quoi. Et c'est un peu gênant, parce que quand on est passé trimestriel, on a calculé nos tarifs en fonction de la certitude de l'avoir, mais bon... C'est pas si grave, mais c'est agaçant.
Pour le projet de l'an 2000, vous allez faire appel à tous les dessinateurs de BD en général, donc même ceux qui ne sont pas forcément proches de l'association, vous allez au contraire vous limiter à ceux dont vous en sentez proche?
Entre les deux, on ne demande pas à tout le monde, on ne demande pas à Monsieur Largo Winch, par exemple, on ne lui demande pas, lui. Mais par contre, on est beaucoup plus exhaustif que ce à quoi on a, enfin, que nos habitudes, quoi. D'une part, parce que c'est plus international, donc on a vraiment fait un travail de recherche dans chaque pays pour voir un peu ce qui se passait d'intéressant partout. Donc là, on a contacté des gens qu'on n'avait jamais contactés pour l'occasion. Et même au niveau national, on demande à des gens, des auteurs, soit qui sont proches à qui on n'a jamais rien demandé, soit qui sont des gens à qui on n'a pas demandé parce que soit ils étaient trop influencés par un tel, soit on n'était pas encore convaincu de leur pertinence. Donc là, en fait, on est plus large et on demande à peu près tous les gens qui comptent dans le paysage qui n'est pas celui du standard, quoi. Donc c'est assez large quand même. Je pense que ça risque vraiment de dépasser de loin ce à quoi on est habitué avec l'association. Ça va aller beaucoup plus dans tous les sens.
Justement, à ce propos, vous me disiez tout à l'heure qu'il y aurait dans cet album quelques aliens. Qu'est-ce que vous...
Il risque d'y avoir des aliens, oui. C'est vrai que...
Qu'est-ce que c'est un alien?
Je ne sais pas si, par exemple, quelqu'un comme... Machereau fait des pages pour Comics 2000, je le considérais comme un alien dedans, mais moi je serais assez content qu'il y ait quelque chose de ce maître de l'école belge, un vrai, là-dedans. Ça me plairait. En même temps, j'espère que, quand même qu'on va garder une certaine cohérence, mais ouais. Le fait qu'il y ait à la fois du Paquito Bolino et, disons, du Machereau... je sais pas, où on a demandé à des gens comme Sampé, par exemple, on a demandé à beaucoup de gens.
Donc il y a
des gens qui sont en marge aussi de la bande dessinée, qui sont plus dans la figuration narrative. On risque d'avoir des drôles de surprises. Je pense que ce livre va être en fait une sorte de...
Donc un alien, ce sont des auteurs qui ne vous ressemblent pas, mais que vous respectez. C'est ça que vous appelez un alien ?
Je ne sais pas exactement ce que j'appelle un alien, moi. J'ai dit ça tout à l'heure ?
Oui, oui.
Ah oui.
On était un peu fatigués, mais... Je l'avais dit.
C'est que, bon, en même temps, dans le Lapin 22, il y a déjà des rapports de proximité qui sont quasiment impossibles. Il y a à la fois du Paquito Bolino et du Isabelle Wilsdorf, où il y a du Florence Sestac et puis du Kilofer, quoi. C'est déjà des choses, bon, s'il y a 2000 pages, on peut élargir ce principe à des choses encore plus dissemblable, sans pour autant qu'il y ait n'importe quoi. C'est là où est toute la difficulté de l'entreprise, c'est que ça peut être entre guillemets œcuménique, mais pas trop, mais ça peut pas être n'importe quoi.
Ok. Allez, une dernière question et puis on va dîner. Non?
C'est simplement, en fait, quand vous avez parlé de votre travail de création, que ça vous posait un peu de problème, que votre travail d'édition avait pris sur votre temps d'auteur, vous ne considérez pas, en fait, que vous avez vraiment trouvé votre place, même si aujourd'hui vous êtes reconnu comme un excellent éditeur, vous ne considérez pas que vous avez vraiment trouvé votre place personnelle dans un travail de création d'éditeur, quoi.
Dans la tête, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, non ? Parce que quand on est auteur, il y a besoin de sortir des choses de sa main, quoi, des choses personnelles. Et même si moi j'adore l'aventure de l'association, je trouve ça incroyable, formidable et tout ce qu'on veut, j'en suis quelque part frustré de pas avoir suffisamment d'espace de création personnelle. C'est vraiment... Bon, en même temps, si je fais une maquette d'un livre qui me plaît, j'ai pas l'impression d'avoir rien créé, j'ai l'impression d'avoir fait exister ce livre. Mais bon, il y a l'auteur qui est là derrière, quoi, qui tapote, quoi, toc toc, et moi, ça, on peut pas y échapper, quoi. Mais je râle pas, hein. Enfin si, mais bon.
Bien, Jean-Christophe Menu, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Ben,
et puis merci à vous pour votre attention.
Merci d'être venu.